mai. Ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, la fin du système de paye Phoenix approche, selon Radio-Canada. Il aura coûté 4 milliards de dollars aux Canadiens et causé des problèmes majeurs de paye à des centaines de milliers de fonctionnaires depuis sa mise sur pied en 2016. Ottawa prévoit maintenant 135 millions de dollars pour le remplacer par le système Dayforce, utilisé notamment par les gouvernements de l'Ontario et de la Californie. En réaction, Éric Villeneuve, l'un des nombreux fonctionnaires lésés, a exprimé des doute sur nos ondes quant à la solution envisagée.
Je me dis, comment on va faire pour corriger toutes les erreurs qu'il y a dans les dossiers? Parce que je ne suis pas le seul qui a des erreurs, puis une soixantaine d'erreurs dans mon dossier. Donc, comment on va faire pour tout régler ça, puis emmener un bon dossier sans erreur dans le nouveau système? Parce que si on importe les erreurs de Phoenix dans le nouveau système, aussi bon soit-il, je ne suis pas convaincu que ça va fonctionner à 100%, moi.
La FIC n'envisage pas de recourir de nouveau à la grève à court terme pour appuyer sa négociation relancée avec Québec, mais elle ne l'exclut pas à plus long terme. La négociation pour le renouvellement de sa convention collective a été relancée avec Québec après que les membres eurent rejeté à 61% l'entente de principe. Mais pour l'instant, les moyens de pression seront plus légers, comme l'indique le vice-président de la FIC et co-responsable de la négociation, Jérôme Rousseau.
La grève n'est pas du tout écartée non plus. Ça fait partie aussi des moyens de pression. Donc, on n'écarte pas la grève. Nos membres, notre délégation nous a mentionné qu'elles sont prêtes aussi à aller jusqu'à la grève. Mais pour le moment, c'est pas à court terme.
Québec solidaire va proposer à ses membres de ramener à sa plus simple expression sa plateforme électorale en vue des élections d'octobre 2026. Réunis en Conseil national les 25 et 26 mai prochains, ben les membres devront décider s'ils acceptent de laisser de côté des pans entiers de leur programme. Louis Lacroix.
En 2022, le programme électoral de Québec solidaire comptait une vingtaine d'enjeux et 105 engagements. Il y a deux semaines, Gabriel Nadeau-Dubois invitait les solidaires à être plus réalistes.
Je pense qu'il faut être plus pragmatique.
En Conseil national, la semaine prochaine, QS va proposer de ramener sa plateforme à 5 ou 6 enjeux.
Qu'on ait une offre politique plus convaincante pour 2026.
Les militants devront donc faire des choix pour aspirer à former un gouvernement.
Pour moi, un parti de gouvernement, c'est un parti qui sait prioriser, qui sait choisir certaines batailles.
Les solidaires ont du temps puisque la plateforme électorale sera adoptée au printemps 2026. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Encore des coups de feu à Montréal. Cette fois-ci, la police est intervenue vers 1h10 du matin sur l'avenue Henri-Julien, près de la rue Boucher, sur le plateau Mont-Royal. Des impacts de projectiles ont été trouvés sur un immeuble à logement. Il n'y a pas de blessés. Deux suspects âgés de 20 et 21 ans qui avaient pris la fuite en voiture et à pied par la suite ont été arrêtés peu de temps après. Les enquêteurs vont les rencontrer ce matin. Selon la chroniqueuse judiciaire du 98.5, Bénédicte Lebel, l'immeuble en question aurait déjà été visé. C'est là que résident les parents de Jean-Philippe Célestin, un chef de gang dont le frère a été assassiné. Au sport golf, place aujourd'hui à la première ronde du championnat de la PGA à Louisville, dans l'État du Kentucky aux États-Unis. Tiger Woods, qui n'est plus l'ombre de lui-même, va tenter de revenir en force. On l'écoute brièvement.
Yeah, I still feel that I can win golf tournaments. I still feel I can hit the shots and still feel like I have my hands around the greens and I can putt. I just need to do it for all 4 days, not like I did at Augusta for only 2.
Tiger Woods indique qu'il se sent encore capable de remporter des tournois et qu'il devra bien jouer durant les 4 jours de la compétition. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Bonjour, ici Jean-Claude Gélina. Je vous invite à ne pas manquer en semaine sur CFIX FM 93. Rimouski, les petites vitres.
Son X Plus Rimouski vous offre son kiosque de téléphone cellulaire Vidéotron avec des produits tels qu'iPhone, Motorola, TCL, Google et Samsung avec sa gamme S24. De plus, profitez des forfaits incluant une tonne de données par mois et une banque annuelle de données supplémentaires. Le tout à partir de seulement 35$ par mois plus taxes, appels et textos illimités au Canada. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin au 150 Avenue Belle-Île ou au sonxplusrimouski.com.
FM 93. Au Québec, vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Merci pour vos nombreuses réactions, courriels, textos. Je vous le dis souvent, mais je le répète, c'est toujours un immense plaisir de vous lire. Notre prochaine invitée est médecin spécialisée. En fait, elle est médecin de famille, mais spécialisée en santé mentale. Elle pratique au privé depuis 14 ans, mais elle souhaite rejoindre le système public, mais elle en est incapable. Imaginez, incapable. Docteur Marie-Lou Sauvé, bienvenue à l'émission.
Oui, bonjour, Madame Normando, vous allez bien?
Très bien, merci. Vous également?
Oui, très bien, oui, merci.
Heureuse de vous accueillir ce matin. C'est un peu une entrevue exclusive parce qu'honnêtement, c'est la première fois que je reçois une médecin qui souhaite quitter le privé pour le public. Là, de ce temps-ci, on entend plus le contraire. Les médecins qui sont un peu fatigués du public puis qui souhaitent aller pratiquer au privé. Vous êtes incapable de réaliser votre rêve, votre souhait. Pourquoi?
En fait, ça fait un peu plus d'un an que je fais des démarches là pour me renseigner un peu, parce que moi, j'ai toujours été au privé. Donc, j'ai commencé à faire des démarches il y a plus d'un an à peu près, parce que moi, évidemment, il faut que je fasse payer les patients que je vois. Puis, étant donné que je fais beaucoup de santé mentale, ben c'est des patients vulnérables, c'est des patients très souffrants et tout ça. Puis, à force de faire payer les patients, il y a pas de médecins qui sont contents là, de faire payer les patients pour des soins, là. Donc, moi, je trouve ça de plus en plus difficile. Et puis, mes cas sont de plus en plus difficiles aussi avec la pratique. Ça fait que je me suis dit, il faut que je trouve une façon que mes patients puissent bénéficier des soins payés par l'État, là, qui devraient d'ailleurs être payés par l'État, surtout dans le temps où on parle de la santé mentale serait une priorité, là. Donc, j'ai commencé à me renseigner comment ça fonctionne au public, la facturation, c'est très compliqué. Et puis là, pour me rendre compte que ce que je fais, moi, au privé, il n'y a pas de pendant, il n'y a pas un équivalent au public. Donc, il n'y a pas de code de facturation que je peux appliquer qui me permettrait d'être payé par la RAMQ pour faire ce que je fais. Donc, en parlant avec des collègues et tout ça, on m'a dit, ben non, ce que tu fais, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, je me suis tournée vers le gouvernement avec des gens que je connais, là, qui, par personne interposée. Oui. Et surtout, oui, j'ai réussi à parler à Lionel Carman, qui est mon député de circonscription, qui est le ministre, justement, tout ce qui est santé et services sociaux. Lui, évidemment, m'écoute parler, me dit, ben, ça n'a pas de sens, là, ce que vous me dites là, mais moi, je peux rien faire. Vous devez vous tourner vers votre syndicat ou vos associations. Fait que là, moi, je comprends pas vraiment, parce que moi, je suis pas membre d'aucun syndicat.
Mais non, vous êtes au privé. Hors RAMQ, vous êtes... parce que FMOQ, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, oui, c'est le syndicat qui représente les médecins de famille. Là, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que depuis 14 ans, là, vous pratiquez au privé, mais vous avez développé au fil des années une pratique en santé mentale. Oui. 80% de votre clientèle a des enjeux au niveau de la santé mentale. Vous avez ouvert une petite clinique en 2021. Oui. Vous suivez des adultes, des enfants, des adolescents. Et là, ce que vous nous dites, c'est que vous souhaitez faire bénéficier de votre expertise au public, parce que lasse de faire payer des patients au privé pour recevoir des soins en santé mentale. Mais là, à cause du système, de la façon dont la facturation est faite, c'est impossible pour vous de faire le transfert du privé au public. C'est quand même assez incroyable.
Oui, c'est assez incroyable. C'est que les gens souvent savent pas. J'explique souvent à mes patients qui sont souvent surpris de comment fonctionne la facturation des médecins omnipraticiens qui sont payés par la RAMQ. Donc, votre médecin est payé en général. Là, évidemment, il y a certaines exceptions, mais en général, le médecin est payé à l'acte. Quand il vous voit, il fait certains actes pour lesquels il facture. Mais il y a une grosse partie de la rémunération qui vient aussi des forfaits, donc d'inscription de patients. Fait que c'est pour ça qu'on entend souvent le mot inscription. Inscription, c'est que le médecin reçoit à tous les trois mois, supposons, un montant forfaitaire selon le nombre de patients inscrits à son nom, qui ait le temps de les voir ou peu importe. Okay. Donc, il faut inscrire des patients pour être rémunéré et il faut les voir aussi pour faire des actes. Donc, moi, si je vois des patients à chaque fois, je vois souvent des nouveaux patients, des patients qui ont des médecins de famille qui sont à l'aise en santé mentale, des patients qui n'ont pas de médecins de famille. Moi, je peux pas inscrire ces patients-là à mon nom, mais moi, j'agis un peu comme une consultante, là, si on veut, en santé mentale. Là. Fait que j'en ai, oui, des patients que je suis en médecine générale, mais je veux dire, je fais un peu les deux. Là. Fait que comme il dit, toi, si tu viens dans le système public, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais là, puis t'inscris un certain nombre de patients là, pour pouvoir être rémunéré. Puis le problème, c'est que quand on inscrit un patient, on est supposé de le voir suspect qu'il y a un problème de santé. Donc, si vous avez mal à la gorge, vous vous mouchez, je sais pas, moi, vous avez, vous blessez un pied, ben là, vous appelez, puis moi, je suis obligée de vous voir. Donc, je peux plus, à ce moment-là, voir tous les patients en santé mentale, puis les nouveaux patients qui vont pas bien, puis je veux dire, il faut que je vois ma clientèle à moi. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est, non, mais il faut que vous trouviez, moi, je pensais que ça allait être tellement facile que j'allais arriver, il allait dire, oh mon Dieu, une médecin généraliste qui, en plus, a fait 7 ans de psychologie avant, donc 15 ans d'université. Quel atout supplémentaire dans notre organisation? On va vous rencontrer, puis on va essayer de trouver une entente ou quelque chose, mais pas du tout. Là. C'est comme, voici comment ça fonctionne.
Ouais,
si vous n'êtes pas contente, vous restez au privé.
Ah, c'est ça, exact. Alors, c'est ça qui est assez incroyable parce que là, on a besoin de médecins qui traitent des cas de santé mentale. Les cas de santé mentale explosent au Québec. Vous vous êtes prêt à offrir votre expertise puis vous vous butez à des obstacles. En fait, puis ce que je comprends, c'est qu'il y a personne qui facilite votre transition du privé au public. Mais combien de patients, ça existe, ça n'existe pas. Et le son est un petit peu moyen. Je sais pas si vous pouvez juste vous rapprocher un petit peu de votre combiné pour vous entendre un petit peu mieux. Parfait. Là, je suis convaincue qu'il y a plein d'auditeurs à l'écoute qui se disent, comment se fait-il que moi, j'ai un médecin, mais je ne peux jamais voir mon médecin? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Parce que beaucoup d'auditeurs, le ministre d'ailleurs s'est réjoui de ça en disant, il y a 500 000 Québécois de moins sur la liste d'attente pour un médecin de famille. Mais comment se fait-il qu'un patient, un médecin, est sur la liste d'un patient, sur la liste d'un médecin, peut voir un médecin, mais qu'il ne le voit pas?
Ben, c'est ça qu'il faut se demander. C'est, son médecin, il est où en ce moment quand lui il appelle? Son médecin, il est occupé, il travaille, là. Les médecins, ils travaillent, ils sont pas chez eux en train de regarder la télévision. Les médecins, ils sont débordés, là. C'est que, ce qui arrive, c'est que pour avoir un salaire, pour se ramasser un salaire décent, si on veut, en faisant la médecine générale en bureau, là. Je parle pas des spécialistes, je parle pas des médecins, mais vraiment le suivi de la médecine générale, là. Il faut inscrire des patients. Ça passe par ça. Ça a été des commandes gouvernementales. Justement, pour dire, ben, écoutez, gardez-le, nous, il y a tant de patients qui sont inscrits, mais il n'y a aucun lien avec les services qui sont donnés. Donc, le médecin, lui, il se fait dire, faut t'inscrire. Fait qu'inscrit, inscrit. Là, il devient imputable des soins de ce patient-là. Fait que ce patient-là, quand il appelle, il est attitré à ce médecin-là, il est supposé voir ce médecin-là ou quelqu'un de sa clinique. Ben, il y en a trop d'inscrits. Je veux dire, moi, au privé, je peux pas faire ça. Je peux pas inscrire beaucoup plus. Je veux dire, les patients, premièrement, ben, ils seront pas contents. Ils vont me laisser des mauvais reviews ou ils vont, tu sais, ça va se plaindre. Mais moi, ce que je fais, c'est quand je commence à avoir un temps d'attente qui dépasse une semaine ou deux, j'arrête d'en prendre.
Prenons un exemple concret pour illustrer. Je comprends, mais prenons un exemple concret là, pour illustrer ce que vous venez de dire. Mettons, moi, je suis médecin. Mettons, je suis médecin au public. Le ministre dit, là, vous allez prendre plus de patients. Parfait. Moi, je vais en prendre 350 de plus, OK? Des 1000 que j'ai déjà. Alors, ça fait bien, le ministre peut dire après, il y a 350 patients qui ont accès maintenant à un médecin de famille. Mais moi, dans ma pratique au quotidien, je ne peux pas voir nécessairement tous ces 350 patients. Pourquoi, en fait? Pourquoi?
Ben, c'est parce qu'il y en a juste trop. À un moment donné, il y a un certain nombre d'heures dans une semaine que vous êtes au bureau pour travailler. Puis si votre horaire est déjà rempli, si vous avez, je ne sais pas, justement, 350 patients de trop, ou si à 1000, vous ne fournissiez pas, vous ne fournirez pas plus à 1350, là. Fait que c'est bien beau les inscrire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de les voir, ces patients-là.
Est-ce que c'est
miser sur l'inscription? Il faut arrêter de payer les médecins de famille sur le nombre de patients inscrits à leur nom. Il faut les payer au travail qu'ils font. Avoir des patients. Puis pas juste, c'est un autre sujet, mais à faire de la vraie médecine. Parce que là,
justement, on y arrive. Mais oui, il y a la paperasse, mais on y arrive. Attendez, docteur Sauvé, on y arrive. Je laisse la paperasse de côté 3 secondes et quart. Quand vous dites, on veut des médecins qui fassent la vraie médecine, là, le problème, c'est que les patients vont dans le bureau du médecin, puis là, le médecin dit, j'ai 15 minutes pour vous, puis c'est un bobo à la fois. Un bobo à la fois. Pourquoi c'est comme ça?
Oui. Ben, parce que c'est comme ça que la rémunération est faite. Donc, moi, ce qu'on m'a dit, parce que moi, mes patients, quand je les vois au bureau, c'est pour ça qu'ils arrivent avec une liste, là, des fois, c'est une page au complet. Là, ils prennent une heure. Fait que moi, je peux éclairer la liste au complet. Donc, parce que moi, je suis payée à l'heure ou au temps que vous passez avec moi. Mais si vous allez dans le bureau de votre médecin et vous avez trois problèmes puis il fait trois examens, il ne peut pas charger trois examens, il peut juste en charger un. Donc, lui, il a intérêt à vous faire revenir.